Niels Weber, bonjour.
Bonjour.
Donc, en plus d'être écrivain, vous êtes psychologue et psychothérapeute spécialiste de l'hyperconnectivité. Au début du livre, vous expliquez que les écrans sont l'affaire de tous et qu'il ne faut pas culpabiliser les jeunes.
Oui, c'est ça. J'ai pu constater que les écrans ou la gestion des écrans était aujourd'hui un des sujets de préoccupation principale des parents, mais c'était aussi un sujet que les jeunes ont rapidement intégré comme un sujet dont il faut pas parler avec les parents parce qu'on va leur dire que ça rend bête, que c'est violent, qu'on perd son temps, etc. Et que je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen de faire un trait d'union entre ces jeunes et leurs parents.
Votre livre s'adresse aux jeunes de 11 à 15 ans, mais est-ce que les ados sont vraiment réceptifs? Moi, quand j'avais 11 à 15 ans, en fait, j'écoutais pas vraiment ce qu'on me disait.
Oui, je pense que moi non plus. mais je pense que ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait les ados sont aussi à la recherche de conseils pour apprendre à gérer ces écrans-là, et notamment les témoignages qui ont été recueillis pour ce livre ont reçu un bon écho. Donc évidemment, le but, ce n'est pas d'avoir un livre alibi ou mode d'emploi à donner aux ados et en disant bah voilà, maintenant débrouille-toi et gère tes écrans, parce que là effectivement je pense qu'ils vont pas écouter grand chose et je ferai pareil à leur place, mais plutôt de se dire qu'ils peuvent aller chercher de l'information quand ils en ont besoin, c'est-à-dire qu'il y a pas que des le but, c'est pas d'avoir des réprimandes sur les écrans, mais plutôt de leur donner des conseils sur des informations sur comment ça marche, comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionnent les jeux vidéo, qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'arrêter une partie de Fortnite, qu'est-ce qui fait qu'on a toujours envie d'aller voir les nouvelles vidéos TikTok. Tous ces conseils-là, finalement, ils peuvent aller les piocher quand ils veulent. Ils ne sont pas obligés de lire tout le bouquin en entier, et surtout, l'idée, c'est aussi de leur faire comprendre que le nombre d'heures passées devant l'écran, c'est pas forcément l'argument principal qu'on devrait mettre en place. Donc ça, je pense que pas mal de jeunes seraient intéressés à savoir comment utiliser cet argument aussi face à leurs parents qui leur mettent des limites de temps par jour.
Alors justement, si c'est pas le temps, c'est quoi qu'il faut privilégier ?
C'est plutôt d'une part, le type de contenu, c'est-à-dire ce qu'on a envie de faire, mais surtout, c'est plutôt une priorité dans les choses qui doivent être faites. C'est-à-dire que plutôt que s'inquiéter du nombre de minutes ou d'heures qu'on passe devant un écran, on devrait plutôt se poser la question, est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire dans ma journée ? Et qu'est-ce que je dois faire ? Ben, c'est aussi les parents qui doivent le définir. Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de leurs enfants pour dire, ben voilà, si tu as fait tout ça, en gros, c'est moins grave si tu passes 2 heures sur Fortnite ou 2 heures sur TikTok. Donc plutôt que de mettre une limite en termes d'heures par jour, on devrait plutôt remettre une priorité sur qu'est-ce qui doit être fait en priorité.
Alors, cet ouvrage se sépare en 7 chapitres, sans entrer dans les détails, mais comment il se décline ?
L'idée, c'est justement qu'on puisse le consulter sans devoir tout lire du début à la fin, mais plutôt de se dire, tiens, aujourd'hui, je me pose des questions plutôt sur les algorithmes des réseaux sociaux, ou plutôt sur la gestion émotionnelle quand on joue à des jeux vidéo, ou alors sur d'autres questions comme l'écologie ou le cyberharcèlement, et de se dire, en fonction des problématiques auxquelles pourraient être confrontés ces jeunes-là, ou peut-être des reproches qu'on leur a fait aussi, de pouvoir aller chercher l'information dont ils ont besoin. Et je pense que notamment, par exemple, les questions d'écologie, j'imagine aussi que les jeunes sont peut-être plus sensibles à cette question d'écologie qu'à la question du temps d'écran par jour. Donc c'est aussi une porte d'entrée différente pour se dire, ah oui, tiens, on peut parler des écrans et on doit parler des écrans. Parce que la plupart des jeunes que je rencontre que ce soit en thérapie ou dans les interventions dans les écoles, souvent ont justement intégré cette idée que l'écran, c'est quelque chose dont on ne doit pas parler. Et là, l'idée, c'est de se dire, ah, mais tiens, en fait, on peut en parler de plein de manières différentes et que finalement, quand on dit les écrans, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut être plus spécifique dans l'utilisation qu'on en fait et que ce sont des médias dont on peut parler comme tous les autres médias et on devrait pouvoir en débattre comme de choses qu'on a vues à la télé ou entendues à la radio, par exemple.
En quelques mots, vous avez réalisé 2 interviews, une avec un YouTuber, une autre avec un journaliste critique de jeux vidéo. J'imagine que là, ça parle aussi aux jeunes. Pourquoi ces choix ?
Parce que l'idée, c'était aussi de leur montrer l'envers du décor. Aujourd'hui, quand on regarde des gens qui font du streaming ou des vidéos sur YouTube ou qui sont influenceurs ou influenceuses ou qui vivent du jeu vidéo, que ce soit en jouant ou en étant critique de jeu, quand on voit tout ça sur Internet, pour certains jeunes, ça peut créer un sentiment un peu d'illusion, c'est-à-dire que c'est facile, qu'il suffit d'allumer sa webcam, de lancer sa partie sur Twitch et que l'argent va tomber facilement. En réalité, l'idée, c'est de montrer que oui, effectivement, on peut gagner sa vie de cette manière-là, mais qu'il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Donc, le fait d'aller demander, poser ces questions à ce YouTuber et à la rédactrice en chef d'un grand magazine de jeux vidéo en France, l'idée, c'est de montrer en fait, il faut comprendre comment ça fonctionne pour inscrire ça dans un principe de réalité et se dire, bah tiens, en fait, si j'aimerais faire ça, c'est pas aussi simple que ce qu'on veut. Justement, le YouTuber me disait, les codes de YouTube font qu'on doit absolument pas voir les ficelles, on doit pas voir les effets spéciaux, on doit en avoir l'impression que ça a été fait sur le moment, de manière spontanée. Mais en réalité, c'est des heures, voire des semaines de travail derrière justement une vidéo, ou de l'autre côté avec justement cette rédactrice en chef qui montrait aussi, qui nous parlait aussi de la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo, ou la réalité aujourd'hui de qu'est-ce que c'est être rédactrice en chef et chroniqueur autour du domaine du jeu vidéo. Donc c'est mettre en lumière un peu ces métiers-là pour se rendre compte comment ça fonctionne.
Neil Weber, on rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute, spécialiste de l'hyperconnectivité, ainsi que l'auteur du livre Les écrans, je gère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Belle journée.
Avec plaisir, merci pour l'invitation.